Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Tôt ce matin, quelques heures à peine après le début du cessez-le-feu, les premiers embouteillages en direction du sud du Liban.
Nous sommes submergés de joie. Même si nos maisons ont été détruites, nous gardons la tête haute grâce à la résistance du Hezbollah.
Des milliers de Libanais déplacés par la guerre entre le Hezbollah et Israël quittent leurs hébergements de fortune.
Je rentre dans mon village. Dieu a eu pitié de nous et j'espère que nous avons tiré des leçons de cette vie et de cette guerre.
Pour la première fois depuis deux mois, les armes se sont tues à 4 heures ce matin sur le Liban et le nord d'Israël. L'accord de cessez-le-feu prévoit 60 jours sans combat. Le Hezbollah et l'armée israélienne doivent se replier pour laisser se déployer les casques bleus de la FINUL et l'armée libanaise.
C'est un nouveau jour qui vient conclure l'une des étapes de souffrance les plus difficiles que les Libanais aient jamais connues dans leur histoire moderne.
En Israël, l'accord ne fait pas l'unanimité auprès des habitants du Nord. Déplacés eux aussi, ils ne pourront pas rentrer chez eux dans l'immédiat, car au moindre incident, la trêve sera levée.
Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons. S'il tente de reprendre ses activités terroristes près de la frontière, nous frapperons.
Les États-Unis et la France veilleront à ce que la trêve soit respectée. Emmanuel Macron l'a déclaré hier en rappelant une autre priorité, la guerre à Gaza.
La France poursuivra ses efforts en vue d'une cessation des hostilités, de la libération des otages et de l'entrée massive de l'aide humanitaire et, bien entendu, d'une solution politique juste et durable qui passe par deux États.
Alors le cessez-le-feu au Liban peut-il être durable? Est-ce une première étape vers la fin du conflit entre le Hamas et Israël? Le retour de la paix est-il envisageable au Proche-Orient?
Nous allons voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Maya Kadra. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes enseignante et journaliste franco-libanaise. Selon vous, la question qui se pose après cet accord de cessez-le-feu, c'est de savoir si ça va marcher, évidemment, et si et l'État libanais, à vos yeux, doit maintenant montrer qu'il est capable de faire respecter cet accord et donc de l'imposer au Hezbollah. À vos côtés, David Kalfa. Bonsoir, bienvenue à vous. Co-directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié Israël-Palestine, année zéro, aux éditions du Bordelot. Et selon vous, David Kalfa, toutes les parties avaient intérêt à ce cessez-le-feu, dites-vous, que ce soit le Hezbollah ou Israël. C'est aussi l'intérêt des puissances régionales d'accompagner cette désescalade avant l'arrivée, évidemment, le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche, du nouveau président américain, Donald Trump, plutôt réputé imprévisible. Et puis à vos côtés, Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous avez publié le Livre noir de Gaza aux éditions du Seuil et selon vous, Agnès Levallois, cet accord est une première étape positive et d'abord pour la population libanaise. Mais s'il y a un acteur pour qui ça pourrait être une mauvaise nouvelle, c'est le Hamas, car en signant le cessez-le-feu, vous dites que le Hezbollah a lâché son allié palestinien. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Marion, vous avez un chiffre du jour.
Oui, 3823, c'est le nombre d'habitants du Liban qui ont été tués dans les frappes israéliennes depuis le mois d'octobre 2023, c'est-à-dire depuis le début de la confrontation. La plupart des victimes datent des dernières semaines, voire des derniers jours, et on sait sans compter le million de déplacés. Côté israélien, on compte 129 morts, civils et militaires. Alors, Maya Kadra, vous qui avez de la famille au Liban, comment vous vous sentez ce soir ?
Ben ce soir, il y a un soulagement, évidemment, parce qu'après un cessez-le-feu, on ne peut que se réjouir. Mais le problème du Liban n'a pas commencé le 8 octobre. Le Liban, ça fait des années qu'il vit des crises politiques qui s'enchaînent. Je rappelle la révolution de 2019 contre la classe politique qui a été avortée, justement parce que le Hezbollah, entre autres, a tabassé des manifestants et a essayé d'éteindre la flamme de la révolution dans la société civile libanaise. Et pas que. Aussi, la société libanaise vit une crise économique sans précédent et elle vit en présence d'un président de la République, donc une crise institutionnelle.
Institutionnelle, économique, évidemment. Est-ce que, d'après les informations que vous avez, le cessez-le-feu, il est respecté pour l'instant ?
Alors, pour l'instant, oui. il est respecté. Il y a même des habitants de certains villages du sud, du nord du fleuve Litani qui sont rentrés chez eux, notamment à Nabatillé, donc sans problème. D'autres qui ont rejoint leurs proches qui sont restés dans la vallée de la Beka. Et donc, tous les sites de refuge où les populations civiles qui ont fui les hostilités se sont réfugiés, aujourd'hui se sont progressivement vidés.
Agnès Levallois, on parle donc d'un accord de cessez-le-feu entre le Premier ministre israélien, Israël d'un côté, et puis le Hezbollah de l'autre, sous l'égide d'un certain nombre d'acteurs internationaux, à commencer par les États-Unis et la France. Mais il est libanais dans tout ça. Il a son mot à dire. Il existe d'ailleurs ?
Il est absent, puisqu'il n'y a pas de président, effectivement, comme Maya vient de le dire, depuis maintenant plus de 2 ans. Que les négociations en fait sont passées par Nabih Berri, qui est le président du Parlement, et donc on voit très clairement que le choix a été fait de s'adresser à un interlocuteur chiite, puisque le président du Parlement au Liban doit être forcément un représentant de la communauté chiite, qui relayait les informations et les propositions au Hezbollah. Et donc ça conforte l'idée, d'ailleurs, qui avait été développée par Netanyahou lorsqu'il a lancé l'offensive contre le Liban, de dire qu'il n'avait rien contre le Liban, contre les Libanais, mais contre le Hezbollah. Et donc on voit bien dans cette stratégie qui a été menée dans les négociations, il s'agissait effectivement de discuter avec le Hezbollah à travers Nabih Berri, donc chiite. Et la grande question, c'est est-ce que ça va être l'occasion, après cette guerre, eh bien d'essayer de remettre en place des institutions libanaises. Et d'ailleurs, ça a été le sens de l'appel du président Macron, qui a dit que maintenant, il était temps, effectivement, que les Libanais puissent élire un président.
Anna, alors que dit précisément cet accord de cessez-le-feu ?
Eh bien, cet accord, il prévoit une phase de 60 jours pendant laquelle l'armée israélienne a obligation de retirer progressivement ses troupes du sud Liban. L'armée libanaise, elle, doit déployer 5000 de ses soldats dans le sud pour récupérer les positions laissées par l'armée israélienne et le Hezbollah. Et quant aux combattants du Hezbollah, eh bien, ils vont devoir s'éloigner de la frontière avec Israël et déplacer leurs armes lourdes au nord de la rivière Litani. On va le voir justement ici sur la carte. Bien sûr, le Liban et Israël conservent le droit de répondre militairement en cas de violation de l'accord, conformément au droit international. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis et de la France, qui sont tous les deux garants du respect de cet accord, ils ont promis une aide technique militaire en soutien à l'armée libanaise et ils ont rejoint le comité de surveillance tripartite aux côtés du Liban, de la FINUL et d'Israël pour maîtriser tout risque d'escalade. Le président Joe Biden, américain, estime que cet accord est conçu donc, pour devenir permanent. David Kalfa, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que cet accord il a été suffisamment bien ficelé pour tenir dans la durée ?
Par définition, c'est un cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu, ce n'est pas un traité de paix, donc c'est très fragile. Ne serait-ce que parce que lui-même est la résultante d'un rapport de force, notamment militaire, sur le terrain. L'une des raisons pour lesquelles il y a un accord aujourd'hui, c'est l'affaiblissement structurel capacitaire du Hezbollah, et aussi des considérations de type politique côté israélien, parce que l'arrivée de Trump à Washington le 20 janvier prochain change de ce point de vue la donne. En fait, ce qui va être la clé, à mon avis, de la pérennité de cet accord, ça sera la question de l'interprétation des éventuelles violations par les parties. Et là, les choses sont beaucoup moins claires. Il est tout à fait envisageable que des conflits d'interprétation se déploient entre Israël et le Liban, ne serait-ce que parce que la création de ce fameux comité qui s'appelle le comité militaire technique pour le Liban dit des choses qui ne sont pas très claires sur ce qui peut se passer à la fois au nord du fleuve Litani, au sud du fleuve Litani. On sait qu'il y a une lettre du président américain qui donnerait une forme de garantie à Israël pour riposter en cas de violation flagrante du cessez-le-feu par le Hezbollah, mais sans définir de manière très précise de quelle violation il s'agit. En tout cas, ça semble donner à Israël, au sud du fleuve Litani, davantage de liberté opérationnelle. Mais tout ça va passer par sans doute des négociations avec une obligation de notification par Israël de toute violation commise par le Hezbollah. Donc il faudra voir, parce que ce qui va changer, en fait, au-delà de cet aspect un peu technique qui peut un peu nous perdre dans ces un peu byzantins, on va dire, ce qui va changer, c'est que par rapport à 2006, si vous voulez, en 2006...
On va en reparler un peu plus tard de 2006. Mais Maya Kadra, effectivement, c'est très très ambigu. Par exemple, si le Hezbollah viole l'accord et tente de s'armer, nous attaquerons, dit le Premier ministre israélien. Donc il dit, si le Hezbollah s'arme, on attaque, sauf que ça, c'est pas dans l'accord.
En fait, ce n'est pas dans l'accord, mais c'est dans la déclaration de Benjamin Netanyahou. Ce
n'est pas écrit.
En effet, non, ce n'est pas écrit. Après, ce qui est écrit dans l'accord, dans cet accord dont on ne connaît pas vraiment encore tous les détails, c'est qu'il y a beaucoup de points d'ambiguïté. Le rapport rappelle la nécessité d'appliquer la 1701. Or, la 1701 dicte pas uniquement le retrait du Hezbollah au nord du Litani, mais le désarmement total aussi, non seulement du Hezbollah, mais de tous les groupes armés. Alors, ceci n'a pas été vraiment évoqué clairement dans l'accord, mais c'est induit d'une manière très indirecte. Et donc, cette déclaration montre en effet la fragilité de cet accord, et un accord de cessez-le-feu n'est pas aussi puissant du point de vue du droit international qu'une résolution qui a été votée au Conseil de sécurité, à savoir la 1701, qui n'a jamais été respectée.
Justement, justement, vous évoquez la fameuse résolution 1701, c'est notre archive du jour. Cette précédente trêve entre Israël et le Hezbollah, à l'époque, l'ONU vote à l'unanimité une résolution, donc la 1701, qui met fin aux hostilités au Liban.
Après 15 jours d'intenses négociations, la résolution 1701 est finalement adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité.
The result of the voting is as follows. The agenda is adopted.
Les termes du compromis sont soigneusement choisis. Ainsi, on ne parle pas de cessez-le-feu, mais d'une cessation des hostilités. La résolution appelle Israël à suspendre immédiatement les offensives militaires et le Hezbollah ses attaques. Dès que les hostilités auront cessé, Tsahal devra amorcer son retrait du Liban Sud. De manière concomitante, l'armée libanaise déploiera ses troupes dans la zone avec l'appui de la FINUL, la force onusienne, dont les effectifs sont portés de 2000 à 15 000 hommes. Une force internationale remusclée qui devrait permettre de contenir la milice chiite du Hezbollah et prévenir ainsi d'autres attaques contre Israël, la seule garantie d'une paix durable.
Alors Agnès Levallois, le retrait en réalité n'a jamais eu lieu, le retrait du Hezbollah. Comment s'assurer cette fois que l'accord de cessez-le-feu sera respecté?
Les conditions sont différentes. Aujourd'hui, on a un Hezbollah qui est quand même sérieusement affaibli.
Il a perdu son chef.
Il a perdu
beaucoup plus qu'à l'époque.
Voilà.
Il y a beaucoup plus affaibli qu'en 2018.
Bien sûr, avec tout son commandement quand même qui a été en grande partie décimé, avec beaucoup de combattants qui sont morts, avec des infrastructures qui ont été touchées et qui ont été détruites. Donc on est dans une situation où le Hezbollah est beaucoup plus faible qu'il ne l'était en 2006. En 2006, il a été porté au contraire par une victoire, considérant qu'il était victorieux. Donc même s'il avait accepté les termes du cessez-le-feu, il se présentait comme étant victorieux parce qu'il avait réussi à faire partir l'armée israélienne. Là, on est dans un cas de figure tout à fait différent où le Hezbollah, en plus, j'ajouterai un autre élément qui est important, est lâché en partie par l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran, aujourd'hui, est dans une stratégie, me semble-t-il, beaucoup plus centrée sur ses intérêts nationaux, puisque la République islamique est quand même fragilisée, elle aussi, maintenant, et donc elle n'a plus les mêmes moyens d'imposer à son partenaire Hezbollah de continuer à combattre et au contraire de se dire maintenant il faut faire profil bas et donc il va falloir respecter cet accord même si effectivement on peut avoir des interrogations jusqu'où le Hezbollah va respecter comme jusqu'où Israël respectera en fonction de la façon dont les choses vont se dérouler.
David Kalfa, c'est aussi l'arrivée de Trump peut-être qui a fait bouger les choses en Iran?
Qui a probablement, enfin, de laisser ça vient d'être dit, il y a d'abord la dynamique militaire cette fois-ci, contrairement à la Seconde Guerre du Liban de 2006, elle est très favorable à Israël. Encore une fois, le Hezbollah est quand même très, très affaibli. C'est non seulement Nasrallah, mais son numéro 2. Et puis...
Donc le Hezbollah avait intérêt à se cesser le feu.
Oui, le Hezbollah était acculé. En effet, en fait, je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'Iran. Je pense qu'il y a une volonté de désescalade au moins partielle de l'Iran aujourd'hui, parce qu'ils craignent par-dessus tout le rétablissement de la stratégie de pression maximale, c'est-à-dire le renforcement des sanctions économiques qui vise à isoler l'Iran sur la scène régionale et internationale. Et puis par ailleurs, ça sera le dernier mandat de Trump et la crainte des Iraniens, désormais avec la destruction de leur système de défense antiaérien russe, les S-300, c'est des frappes israéliennes contre les sites nucléaires du régime. L'obsession du régime iranien, c'est sa survie. Il est très impopulaire en interne. Et donc, pour parvenir, si vous voulez, à sanctuariser son territoire et à préserver la pérennité de son régime, je crois qu'il pourra faire des concessions tactiques pendant les 4 prochaines années.
– Mais alors, le Hezbollah affaiblit d'une part l'Iran qui redoute les conséquences du retour de Trump à la Maison-Blanche, d'autre part avait intérêt à cet accord de cessez-le-feu, mais Israël, pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou s'y est résolu? Pourquoi est-ce qu'il avait intérêt là, à cet accord de cessez-le-feu, Maya Kadra ?–
En fait, pour maintes raisons, c'est pour des raisons économiques. L'économie israélienne a été presque mise à l'arrêt depuis le 7 octobre 2023. C'est pour des raisons qui… qui sont en lien avec le moral des troupes aussi, parce que c'est une guerre épuisante. Le sud du Liban, ce n'est pas vraiment comme Gaza. C'est une région qui est géographiquement beaucoup plus difficile. C'est des montagnes, c'est des vallées. Il y avait plein de tunnels à
démanteler. Mais il n'y a pas unanimité au sein du cabinet Netanyahou. Il est quand même contesté.
Il n'y a qu'un ministre d'extrême droite qui a voté.
Oui, c'est Ben Gvir qui s'est opposé. Exactement. Et il n'a pas mis sa démission dans la balance. Et donc, ça n'a pas vraiment eu d'effet sur la décision qui a été prise.
Peut-être un élément aussi, c'est que l'armée israélienne quand même souffre, est dans une situation difficile après plus d'un an de combat, et qu'il y a de plus en plus de réservistes qui ne veulent pas rejoindre l'armée. Et donc, je pense que de continuer à maintenir deux fronts comme c'était le cas depuis plus de 2 mois, il y a un moment où ça devient compliqué, et que je pense quand même que la priorité de Netanyahou, ça reste quand même Gaza et la Cisjordanie, qu'il peut dire à ses ministres d'extrême droite et à la population libanaise que quand même, israélienne, que le travail a été fait au Liban avec cet affaiblissement significatif du Hezbollah, et le fait que le Hezbollah donc a accepté cette négociation. Et donc je pense que c'est vraiment pour Netanyahou, ça peut être présenté, c'est présenté comme un succès, et donc il peut tout à fait le valoriser d'un point de vue politique.
D'accord.
En fait, c'était un succès au Liban. On ne peut pas dire que ce n'était pas un succès. Là où à Gaza, on voit que la question des otages n'est pas vraiment encore résolue, au Liban, il y a eu vraiment des opérations qui ont vraiment réussi. Mais juste pour revenir en fait à cette décision de cesser le feu acceptée par Netanyahou et déclarée par Netanyahou, c'est qu'il a lui-même dit que la priorité aujourd'hui, c'est de s'attaquer à l'Iran. Et il a même au passage mis en garde Bachar el-Assad, le président syrien, en lui disant « ne jouez pas avec le feu ».
David Kalfa, est-ce que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou a pu jouer un rôle dans cette histoire ?
Non, je ne crois pas, mais disons que c'est un effet induit de la cessation des hostilités. Je remarque au passage que souvent le droit international est cité au biais et torbi, mais qu'on voit bien à quel point finalement l'interprétation peut être très extensive quand l'intérêt stratégique des parties... quand il en va de l'intérêt stratégique du parti, parce que très probablement il y a eu un deal entre Israël et la France, parce que on voit que le Quai d'Orsay a rétropédalé en déclarant aujourd'hui que son premier ministre Netanyahou pourrait difficilement être arrêté, sachant qu'Israël n'est pas parti au traité. Enfin, je me doute que les mêmes juristes savaient avant-hier qu'Israël n'était pas parti au traité traité de Rome. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu probablement en coulisses un jeu diplomatique où Israël a demandé à la France, si elle voulait jouer un rôle dans ce fameux comité technique militaire, d'abandonner l'imposition de ce mandat d'arrêt à Netanyahou et Galante.
D'un mot, Agnès Levallois, vous aussi, vous pensez que le mandat d'arrêt de la CPI n'a eu aucune influence ?
Moi, je pense qu'il y a eu une influence. Je pense que pour Netanyahou, ce mandat d'arrêt est quelque chose d'absolument insupportable. On l'a vu dans les déclarations de Netanyahou lorsque ce mandat d'arrêt est sorti. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une négociation avec les diplomates français pour dire « vous voulez jouer un rôle ?» On veut bien vous accorder ce rôle, mais il faut nous donner quelque chose en échange. Et je pense que pour Netanyahou, la question du mandat d'arrêt est absolument essentielle pour lui. Et donc oui, il y a une négociation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une relation directe entre les deux. Et la concomitance, effectivement, du communiqué ce matin du Quai d'Orsay le démontre.
C'est pas la cause, si vous voulez, du cessez-le-feu, mais c'est un effet induit du cessez-le-feu.
Vous avez évoqué les uns et les autres tout à l'heure le calendrier, l'arrivée le 20 janvier prochain d'un nouveau président à la Maison-Blanche, Donald Trump évidemment, mais en attendant, il y en a un qui est toujours en place, qui se réjouit.
Le président des États-Unis, donc toujours en place, Joe Biden, qui a immédiatement salué cet accord hier. Il a remercié le président français pour son action et surtout, il a jugé que l'accord permettrait un nouveau départ pour le Liban.
As for the broader Middle East region, today's announcement brings us closer to realizing the affirmative agenda that I've been pushing forward during my entire presidency. A vision for the future of the Middle East where it's at peace and prosperous and integrated across borders. And in my remaining time in office, I'll work tirelessly to advance this vision for an integrated, secure, and prosperous region, all of which strengthens America's national security.
Alors David Kalfa, est-ce que c'est effectivement un succès de Joe Biden ou est-ce que c'est déjà le premier succès de Donald Trump puisque tout ça s'accélère avant l'arrivée du président élu ?
C'est les deux. C'est les deux parce que la crainte d'Israël et Netanyahou en particulier, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'interrègne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du second mandat de Barack Obama, l'administration américaine ne s'était pas opposée à une résolution du Conseil de sécurité qui donc condamnait Israël s'agissant de sa politique de colonisation de la Cisjordanie. Et donc ça, c'était une des craintes de Netanyahou, c'était que Biden, au fond, permettre justement l'adoption d'une telle résolution et imposant un cessez-le-feu dans des conditions beaucoup moins favorables qu'aujourd'hui, à la fois à Gaza et au Liban. Donc il y a clairement eu un effet Biden de ce point de vue. Et par ailleurs, oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'anticipation, enfin Trump pendant toute sa campagne, il n'a cessé de rappeler qu'il voulait que ces conflits à Gaza comme au Liban soient derrière lui lorsqu'il arriverait le 20 janvier prochain, enfin lorsqu'il sera intronisé le 20 janvier prochain à la Maison Blanche, donc ça a eu aussi un impact.
Alors Agnès Levallois, rappelons que c'est le Hezbollah au tout début qui a ouvert ce conflit à partir du 8 octobre 2023 par solidarité avec le Hamas en envoyant des missiles sur le nord d'Israël. Là, le Hezbollah donc, signe ce cessez-le-feu avec Israël. Est-ce que le Hezbollah, en quelque sorte, lâche le Hamas et quelles conséquences cette décision peut avoir sur Gaza ?
Oui, on peut tout à fait dire que le Hezbollah a lâché le Hamas, puisque le Hezbollah n'avait de cesse que de lier les deux en disant on arrêtera le tir de roquettes sur le nord d'Israël le jour où il y aura un cessez-le-feu qui sera négocié avec le Hamas. Et donc là, on a renversé les choses, puisque le cessez-le-feu est négocié avec le Hezbollah et non pas avec le Hamas. Et d'ailleurs, ce matin, on a vu un responsable du Hamas dire qu'il était prêt, que le mouvement était prêt à une négociation pour un cessez-le-feu, puisque là, il se retrouve quand même très seul dans un contexte extrêmement difficile. Et je le rappelle, parce qu'on en parle beaucoup moins, la recrudescence des bombardements sur la bande de Gaza ces derniers jours est absolument impressionnante, avec un nombre de victimes qui ne cesse d'augmenter. Donc aujourd'hui, pour le Hamas, aussi vis-à-vis de la population de Gaza qui vit sous ce déluge de bombes, il faut absolument dire qu'il est prêt à commencer un cessez-le-feu, parce que la situation
n'est plus possible. En relâchant les otages, il est prêt à relâcher les otages.
Alors, maintenant, il veut bien, dans la négociation, c'est en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Et là, aujourd'hui, on sait bien que pour Netanyahou, il est hors de question d'accepter ce deal. Donc la question, quelle est la marge de manœuvre du Hamas, elle est, à mon avis, de plus en plus faible dans une négociation avec Israël.
Maya Kadra, quand le Hamas dit qu'il est favorable à la trêve, au cessez-le-feu, ça veut dire quoi? C'est une chance pour la paix, peut-être?
Écoutez, en tout cas, c'est devenu une réalité pour le Hamas. Il n'y a pas d'autre choix que celui de la cessation des hostilités. Il faut savoir qu'il y a eu une inversion en fait, de la logique depuis le 8 octobre. Le Hezbollah ne voulait pas arrêter de lancer des missiles avant qu'il n'y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et aujourd'hui, on voit que le Hezbollah a capitulé. Ce n'est pas qu'il a accepté un cessez-le-feu, c'est une capitulation. En acceptant cet accord, c'est un aveu de la défaite aussi qu'il a subie. Et aujourd'hui, le Hamas, qui est inférieur quand même dans la hiérarchie des proxys iraniens au Moyen-Orient, il est très inférieur au Hezbollah, il n'a plus aucune raison en fait, de continuer à durcir le ton quand il s'agit des négociations à Gaza.
Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.